Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bah oui, la petite musique, elle n'était pas là.
Donc, attendez, je reprends mes esprits. Et donc, une heure pour parler de la défense et de la promotion des droits humains. Mais avant de commencer l'émission, je crois qu'il y avait, Edith, qu'il y avait quelques mots à vous dire.
Ben écoutez, déjà, bonsoir. C'est, hein, puis Mina aussi, on va leur dire bonsoir.
Mina qui présente l'émission avec moi, bien voilà. Sûr, ce soir.
Oui, oui, ben écoutez, on va, vous connaissez Claire Lise, qui est souvent avec nous. Ben écoutez, on lui envoie plein de belles énergies, de belles pensées, parce que tout de suite, c'est un peu compliqué pour elle. Voilà, donc vous pouvez aussi lui envoyer plein de belles énergies. Ça sera très bien.
Et donc, aussi pour commencer l'émission, juste avant qu'on passe la parole à Mina, qui va vous parler en ce début d'émission, donc on voulait vous rappeler de réserver, on vous en a parlé à la dernière émission, mais de réserver votre jeudi 10 novembre prochain. C'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure l'erreur de moi en vous parlant de l'émission
du 10 novembre. Tu voulais déjà être en novembre.
Jeudi 10 novembre, on vous rappelle qu'on a toute une journée d'un forum consacré aux droits humains, organisé par Amnesty Évreux et la région Haute-Normandie, et qui s'appelle « Changement climatique ». Et droits humains, vous aurez le programme détaillé en fin d'émission, donc surtout ne quittez pas l'antenne. Et donc ça se passe dans la salle de conférence du lycée Aristide Briand, le jeudi 10 novembre, de 9h à 17h, entrée gratuite et libre, bien sûr, donc on compte sur vous. Et donc Mina, c'est à toi.
Oui, bonsoir. Alors ce soir pour vous, j'ai préparé, Amnesty a préparé pour moi, car on a une chronique, c'est super, où ils font des recherches et... sur des dossiers dans les pays. Donc, on va commencer sur le web avec les réseaux sociaux qui sont une arme de plus au service du citoyen. Pourquoi ? Dans le cadre d'une série documentaire pour Arte, qui n'est pas encore passée, ça sera un mardi, parce que j'ai cherché hier, dans le replay, sur le contrôle des foules et les nouvelles armes de la police, le réalisateur Paul Morera a puisé dans les réseaux sociaux matière à enquêter. Alors, c'est un de nos investigateurs qui lui a posé des questions, Virginie Roes. Donc, les questions. Le premier volet de votre série documentaire porte sur l'évolution du maintien de l'ordre. Quel rôle ont joué les informations en open source dans vos investigations ? Alors, d'abord, il faut dire que ces documentaires, et c'est leur force, reposent sur les images que nous avons tournées nous-mêmes au plus près des événements, notamment la crise des gilets jaunes et les manifestations des jeunes écologistes allemands. Mais pour certains pans de l'enquête, à l'international surtout, les réseaux sociaux ont été incroyablement précieux, une source à part entière. Chaque manifestation en France, en Allemagne ou aux États-Unis était rapportée sur Twitter. Dans ces images, comme dans celles que j'ai filmées, la police se rapproche de plus en plus des manifestants. L'autre volet de la série porte sur l'emploi des nouvelles armes par les forces de l'ordre. Aucun des tirs de LBD que nous avons filmés n'était justifié. À l'étranger, certains manifestants ont fait un travail énorme de collecte d'informations, spécifiquement sur les armes. Ils ont ainsi pu prouver que des entreprises françaises telles que SAPL avaient vendu des munitions à la police libanaise. L'open source participe complètement de l'enquête aujourd'hui. Qu'attendez-vous par participe ? En ce qui concerne les grandes manifestations d'octobre 2019 au Chili, par exemple, sur Twitter, j'ai trouvé une sorte d'agence d'information collaborative créée par des manifestants appelée El Pueblo Informa, le peuple informe. J'ai posé une question et leur réseau répercutait mes questions à leurs milliers de membres. En 10 minutes, j'avais des informations précises, vérifiables, documentées sur le type d'armes utilisées, la marque des cartouches, comme celle des voitures blindées. Auriez-vous pu réaliser cette série documentaire de la même façon sans ces nouvelles sources d'informations. Cela aurait été beaucoup moins riche. Pour les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, au printemps 2020 par exemple, j'ai pu raconter l'histoire d'un jeune homme visé à la tête avec une balle en caoutchouc, grâce à un abonné d'Instagram. Il a mis en ligne toute la manifestation de ce jour-là. Je lui ai demandé sa permission pour diffuser sa vidéo. Il a dit oui. Le réflexe de commercialisation n'existe pas encore sur les réseaux. Les gens savent qu'ils participent à l'élaboration de la vérité. Comment être certain de la fiabilité des images? Elles pourraient être antidatées, manipulées. On peut vérifier, recouper. C'est rare qu'il n'y ait qu'une seule source. La plupart du temps, des dizaines de personnes filment au même endroit, au même moment. De plus, j'échange avec l'auteur d'une image. Je vérifie sa crédibilité à partir de son historique, des propos qu'il tient. Si les fake news sont rares, il arrive par contre de n'avoir qu'un moment parcellaire. Si l'on voit sur la vidéo, par exemple, un policier tirer, mais que l'on n'en voit pas les dizaines de cailloux qu'il a reçus avant, forcément, l'information n'est plus la même. Ces images deviennent aussi l'objet d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La France est l'une des seules démocraties où un projet de loi en 2021 prévoyait d'entraver le travail des citoyens journalistes en leur interdisant de filmer les policiers. Même si cet article de la loi Sécurité globale n'est pas passé sur le terrain, les policiers entretiennent le flou. En demandant aux manifestants « Vous avez la carte de presse ?» ils essayent de restreindre la liberté de filmer alors que c'est un droit. C'est légal de filmer un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. C'est légal de le diffuser, qu'on soit journaliste ou pas. Avez-vous interviewé des policiers à ce sujet? Un CRS m'a dit que si, pour lui, filmer est un droit, parfois, lorsque des dizaines de personnes pointent leur téléphone à 50 cm de lui, c'est insupportable et cela engage une relation conflictuelle. Il faut faire attention à cela. Pour protéger le droit de filmer, de témoigner, ne pas le transformer en agression. La plupart des événements sont filmés aujourd'hui sous tous les angles et diffusés sur les réseaux. Cela veut-il dire qu'on peut se passer des médias? Non, les réseaux sociaux sont une arme de plus au service du citoyen. Je suis moi-même un grand consommateur d'infos en open source. Parfois, le niveau d'immédiateté est incroyable. Je me souviens des dernières heures des combats contre Daesh en Syrie, à la frontière irakienne. Je suivais le fil Twitter d'une brigade. J'avais accès à des images n'apparaissant dans les médias qu'une semaine après. L'aspect noble de ces réseaux est de sociabiliser une information à grande vitesse. Mais à ces images manqueront toujours le contexte, la synthèse, la distance apportée par l'enquête et le documentaire. Voilà les propos recueillis par Virginie Roels. Donc le documentaire qui va passer le mardi en soirée Théma, c'est percuté, point d'exclamation, et presque mortel. Voilà. Ça, c'était pour les réseaux sociaux, qui sont une arme pour les citoyens. Et comme on parle beaucoup de manifestants qui sont bafoués dans leurs droits, je trouvais ça important de vous le lire.
Si je peux faire un tout petit commentaire, Mina, c'est...
Parce que tu m'as dit que tu ne prenais pas beaucoup de minutes.
Non, mais ça tombe tout à fait bien, parce que tout à l'heure, on va parler aussi de cybersurveillance, donc on est toujours dans les mêmes sujets.
C'est ça.
Voilà, et sur la chronique, il y a encore d'autres articles qui déclinent ces réseaux sociaux et effectivement, l'open source et comment ça peut servir aux ONG, aux journalistes. Et voilà, tout à fait intéressant, Mina.
Merci. Donc là, c'était dans la chronique de octobre 2022. Et la dernière fois que je suis venue, c'était au moins il y a un petit mois. Je n'avais pas eu le temps de faire un article de la chronique de septembre. Et là, c'est la nouvelle arme, entre guillemets. C'est le stand-up et on part pour le Liban. Alors, mettez-vous dans la scène. Pas d'éclairage public. Des feux tricolores en berne. Beyrouth semble débranchée, comme l'ensemble du pays frappé par l'effondrement économique. La quarantina est plongée dans le noir. J'avance à tâtons dans ce quartier à quelques encablures du port soufflé par l'explosion meurtrière du 4 août 2020. C'est pourtant une foule joyeuse qui se presse à l'entrée du quai. Ici, 4 jours par semaine, une vingtaine d'acteurs de stand-up se succèdent, réunis par la plateforme Inkword Comedy. Les sketchs durent 5 à 6 minutes, sauf pour les stars, qui tiennent le micro pendant une heure. Quant au cachet, il reste modeste, 200 000 livres libanaises, les 10 minutes, soit 7,40 €. Tout comme le prix du ticket d'entrée, entre 80 000 et 180 000 livres, soit entre 3 et 7 €, qui fluctue, lui, en fonction du cours du dollar. Ce soir-là, une boule d'énergie embrase la scène. Crinière, auburn, sourcils bien dessinés, bouche rieuse, Shaden Faki se lance face à 200 personnes. Elle tacle le patriarcat, vanne sa propre homosexualité, dans une langue crue et imagée. Une prise de risque alors que l'article 534 du Code pénal libanais interdit toujours les relations sexuelles contraires aux lois de la nature. Dans les bars et quelques lieux alternatifs, mais aussi sur YouTube et TikTok, des humoristes libanais d'un genre nouveau ont émergé. Une génération de comédiens en rupture avec le cabaret traditionnel où certains chansonniers, adeptes du pur divertissement, s'entouraient de filles sexy en guise de faire valoir. Les humoristes actuels s'inspirent, eux, de leur expérience personnelle dans un pays en faillite où, selon un expert de l'ONU, l'impunité, la corruption et les inégalités structurelles ont été intégrées dans un système politique et économique vénal conçu pour faire échouer ceux qui sont en bas de l'échelle. Autre spécificité de cette nouvelle vague de comiques, ils n'hésitent pas à s'emparer frontalement de sujets tels que la défense des personnes LGBTI, le féminisme, les abus de pouvoir de responsables politiques ou religieux. Et ce n'est pas un hasard si cette floraison d'humoristes a éclos dans le sillage des grandes manifestations de 2015 et 2019. À l'instar de ces vastes mouvements de contestation du système qui ont réuni des Libanais de toutes les régions et de toutes confessions, les têtes d'affiche de la nouvelle scène ne viennent pas seulement de Beyrouth. Alors, je ne continuerai pas, sinon je fais toute l'émission. Alors, cet article... il a été mené par Aurélie Carton. Elle est envoyée spéciale à Beyrouth. Elle l'a titré « Nouvelle vanne ». Dans le sillage des grandes manifestations de 2015 et 2019, une nouvelle génération d'humoristes a émergé. Leurs saillies font mouche dans une société au bord de la crise de nerfs, non sans risque. Donc ce reportage, il est dans la chronique de septembre, à la page 34-35, sur Internet. Je ne sais pas si vous aurez la page. Mais ils vont parler... d'une journaliste Noura Ejiar, d'un autre stand-upper, je ne sais même pas si on dit ça, d'un autre humoriste,
tu peux le dire, hein, c'est pas
Amal
grave.
Tayeb. On y parle de Shaker, de Shaden Faki, dont je viens de vous parler. Et on a aussi une image d'un graffiti au centre-ville de Beyrouth. Révolution, même si vous essayez de nous faire taire. Avec un visage où la personne a un bandeau sur la bouche. Donc n'hésitez pas à aller le lire en entier, très intéressant. Le combat continue, voilà le message.
L'énergie des Libanais dans les conditions actuelles de vie, c'est superbe.
Oui. Vous aviez un petit mot à rajouter ou non ?
Non, tout à fait. Ça m'a bien fait d'en parler, effectivement, parce que c'était une façon assez originale de parler aussi de liberté d'expression et de lutte pour ses droits, effectivement, de passer par le stand-up et l'humour.
C'est bien que la création, c'est toute la vie. La création, il n'y a pas de vie.
Ah ouais, chapeau.
Je ne savais pas que tu parlais espagnol.
C'est à la part si tu veux, je te parle de la pétanque et je te dis le pastaga. Je fais tout ce que tu veux.
Caméléon Mina.
Eh oui, il faut. Dans ce monde de brut, des fois, il faut passer incognito ou se fondre dans la masse, mais tout en ayant nos droits respectés.
Absolument.
Et maintenant, du coup, allez, rubrique culturelle.
Super.
Et donc, non, Claire-Lise, je ne t'en veux pas d'avoir piqué un peu de ma rubrique culturelle la dernière fois.
Oui, mais parce que t'étais pas là.
Alors, c'est pas grave. Tant qu'il y a de la culture, c'est bon. Alors, j'ai qu'une chose à vous proposer, mais la chose. Une expo à la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, sur Fela Anikulapo Kuti, le roi de l'afrobeat.
Ah oui.
La musique est l'arme du futur, ces mots de Fela Anikulapo. Là, pardon.
Arrête-toi,
mais c'est le micro.
Voilà. Moi, je comprends mieux.
Non, mais moi, je dis Fela Kuti, mais Anikulapo, ça vient de sa mère. Donc, c'est important de le dire. Fela Anikulapo Kuti n'en finissent pas de résonner aujourd'hui. Le musicien né en 1938 au Nigeria est devenu une figure d'envergure mondiale dès la fin des années 1970 et il a enchaîné les tournées internationales jusqu'à son décès en 1997. L'héritage du Black President est omniprésent à travers le monde, tant sur le plan musical que politique. La fabrique de l'afrobeat, c'est quoi ? Le style musical que Fela a créé et qu'il a baptisé Afrobeat mêle de multiples influences, des rythmes yorumba au free jazz, en passant par la soul ou le funk. En constante mutation, l'afrobeat de Kula Lobitos, la première formation de Fela, doit également beaucoup au high life ouest africain et donne la part belle au cuivre et aux percussions. Qu'est-ce que le high life ? Entre 1957 et 1960, dans le contexte de l'indépendance du Ghana et du Nigeria, une jeunesse avide de liberté s'adonne au high life. Cette conception esthète et bohème, où la vie n'est que danse et musique, permet l'éclosion d'un style nouveau et d'un jeune musicien répondant au nom de Fela Anikulapo Kuti. Avec ses groupes, donc Fela, Africa 70 puis Égypte 80, il s'entoure d'un nombre croissant de musiciens et donne naissance à des constructions symphoniques de plus en plus complexes. L'exposition raconte ce cheminement et la trajectoire musicale de l'artiste, donnant à entendre et à comprendre les sources et l'évolution de l'afrobeat. Je ne vais pas continuer, je vois qu'il est déjà bientôt 19h18. Cette source documentaire, je l'ai eue directement sur le site de la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, ce n'est pas de moi. Donc vous aurez la suite en expliquant... je vais quand même vous lire cette phrase, nourrie par le panafricanisme de Malcolm X, Kwame Nkrumah ou Cheikh Anta Diop, mais aussi par des combats anticoloniaux de sa mère, la militante féministe Fanmilayo Ransome-Kuti. Il fait des concerts, des tribunes et de sa maison, la Kalakuta République, un bastion dissident. Tout ça pour vous dire que la richesse de sa musique, et c'était aussi une arme. Sa musique avec ses groupes était aussi une arme, la High Life, l'Afrobeat. Vive Fela, vive les Kuti. Et je vous dis à bientôt.
Eh bien, merci Mina pour ces informations et cette rubrique culturelle. Donc, on va essayer de vous passer une pause musicale si ça veut bien marcher, mais j'ai pas mal de doutes. Donc voilà.
Sans ça, on va remettre un petit
automate. On réclame votre indulgence, effectivement.
Mais parce pas qu'on forcément a, choisi.
On
voilà.
a un souci.
Tu veux que je te chante du.
On a un souci technique.
Du Ophélie Winter.
Ah, tu veux chanter,
je Mina? Veux perdre de temps à t'écouter car tu dérailles. Oh, on est cher.
Didier, essaye, s'il te plaît.
Il va trouver comment faire passer la musique.
On essaye. But he's listening on the lip, and it's no place as alone as some way you once belonged. He's standing at my window, gazing at my magnolia tree. Listening to the birds they sing, a song that belongs to me. And there's no place as alone as some way once belonged. There's no place as alone as some way. He's mooching around my kitchen now. He's whisking up.
like to be. And the sun is shining, the birds are singing, the magnolia is in bloom. And there's no place as alone as somewhere you once belong. There's no place as alone as somewhere you once belong.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était pas du tout le morceau de musique qui était prévu, mais comme on
voit... Ouais, mais c'est bien quand même d'avoir de la musique.
Pour lancer les choses enregistrées, donc voilà, on a récupéré un morceau qui était en fond sonore sur l'automate de la radio. Donc voilà, et on avait aussi prévu de vous passer un petit enregistrement sur le sujet qui va suivre, et pour la même raison technique,
ah bah là, on ne peut pas vous le passer. Puis là, on ne peut pas vous le faire en
Je vais refaire un essai, mais j'y crois pas du tout.
Non,
donc
mais
voilà,
ce sera une émission spéciale sans...
Non, bah, j'insiste pas, effectivement, ça ne marche pas.
Il y a quelque chose.
Ça ne marche pas. Donc, c'était pour vous parler de cybersurveillance et de Pegasus. Alors voilà pourquoi on vous en parle. C'est parce qu'en fait, à partir de demain et pendant 3 jours, il y a une conférence aux Nations Unies qui va avoir lieu. Je reprends mes papiers parce que ce n'était pas prévu du tout comme ça. Voilà. Une conférence aux Nations Unies qui va parler du droit à la vie privée, à l'ère numérique et des atteintes aux droits humains qui en découlent. Alors, ça fait suite à Amnesty, on vous en a déjà parlé effectivement dans des précédentes émissions, a beaucoup travaillé depuis 2 ans sur ce qu'on appelle l'affaire Pegasus. L'affaire Pegasus, c'est un logiciel qui a été mis au point par une société informatique israélienne, un logiciel qui permet de pirater les téléphones portables de n'importe qui. Donc, on n'ignore pas effectivement que vous, qui nous écoutez, vous êtes tous, toutes et toutes détenteurs de téléphones portables. Eh bien, sachez que ce logiciel-là pourrait éventuellement être installé dans votre téléphone pour aspirer tout le contenu de votre téléphone, vous écouter, vous pister, récupérer vos contacts, vos photos, etc., etc., vos vidéos, sans que même vous ayez conscience que ce logiciel, en fait, vous épie. Et donc, effectivement, Amnesty, c'est paru aussi dans la presse, hein, donc il y a des médias...
Une enquête journalistique
tout à fait,
autour de ça, oui.
Qui avait été faite à l'époque et qui est toujours en cours.
À l'époque, c'est 2021. Hein.
2021, c'est pas vieux. Ça fait 2 ans à peu près. Donc, effectivement, là, à partir de demain, et sur plusieurs jours, à l'ONU, va être discuté de cette notion de droit à la vie privée, et donc de réglementer... la production de ce genre de logiciel et la vente dans différents États. Alors, il y a pas mal d'États qui l'ont d'ores et déjà acheté. Hein. On sait que la Hongrie l'a acheté, que l'Arabie Saoudite l'a acheté, que l'Ouzbékistan, si j'ai bonne mémoire, c'était dans le petit audio qu'on peut pas vous passer, l'Ouzbékistan, effectivement, aussi l'a acheté, etc., etc. Comme dit Amnesty, ce ne sont pas des États qui sont des exemples au niveau des droits humains. Et alors, pour la petite histoire aussi, il avait été dit à l'époque, et ça a été prouvé, que les téléphones d'Emmanuel Macron et de la présidente, de la chancelière allemande de l'époque, qui s'appelait,
Celle qui est partie, là, qui a duré très très longtemps.
Oui,
là.
Enfin, voilà.
Bref. Voilà, mais il pose des questions maintenant, ça y est, moi, ça me fait des trous noirs. Non. Mais vous voyez bien la petite dame avec sa grande veste, là, toujours.
Tout à
voilà.
fait. Et donc,
ça va m'en venir.
Que leur téléphone avait été piraté par Pegasus, même eux, effectivement, sans qu'ils ne s'en rendent compte.
Mais parce que le Pegasus, il est trop bien, c'est qu'on s'en rend absolument pas compte. Voilà, il n'y a pas, même avec toutes les sécurités possibles, ça s'installe très sournoisement dans les téléphones.
C'est ça. Et que donc, Amnesty pense, avec d'autres ONG bien sûr, pense que le fait que l'ONU puisse faire une déclaration et puisse légiférer sur la question pour la protection de la vie privée, donc l'interdiction de ce genre de choses, ça peut être une piste tout à fait intéressante. Alors comment ça va se passer? Bon, je vais vous en dire effectivement quelques mots. Donc la session à l'ONU commence demain et aura lieu jusqu'au 31 octobre. Donc, le but d'Amnesty, en fait, c'est de demander, en attendant que cette décision de l'ONU soit prise pour réglementer effectivement ce genre d'exaction, que en fait il y a un moratoire. Alors un moratoire, c'est une décision qui est prise pour empêcher les gens d'utiliser ce genre d'outils jusqu'à temps qu'une législation soit mise en place. Donc un moratoire, en attendant, soit adopté pour protéger la vie privée des gens. Et donc Amnesty va participer, alors principalement le 28 octobre, donc dans deux jours, va participer à des débats qui vont avoir lieu donc à l'ONU à New York, qui va participer à des débats, pour réglementer ce genre de choses. Donc, alors je vais vous dire simplement comment ça va se passer. Pour parler des menaces que font peser la cybersurveillance sur nos droits fondamentaux, donc seront présents plusieurs personnes, deux victimes du logiciel déjà de Pegasus, Julia Gavaret, journaliste salvadorienne, et Majoub Maïla, militant du Sahara occidental. La directrice adjointe d'Amnesty Tech, Dana Ingleton, elle reviendra sur les scandales des révélations Pegasus et les dangers de ces techniques et technologies si rien n'est fait pour les réguler. Alors Amnesty Tech, en petite parenthèse, c'est un laboratoire qui a permis effectivement de mettre la main sur ce scandale. C'est un laboratoire d'études par rapport aux droits humains et à leur remise en cause par les différents outils qui sont sur Internet. Et c'est un laboratoire qui siège à Berlin. Donc, participeront aussi à cette journée deux experts de l'ONU, Greg Mockibert et Clément Nialet-Sossu, rapporteur spécial des droits sur la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Et bien sûr, des délégations d'Amnesty International, dont Katia Roux, que nous on a déjà fait venir à Évreux, qu'on connaît un petit peu effectivement, et qui est chargée de plaidoyer sur ces questions à Amnesty France. Donc voilà. Donc voilà comment ça va se passer. Alors cette journée du 28 octobre, si ça vous intéresse d'être tenu au courant et éventuellement d'assister à quelques débats, bon, je suppose que ça aura lieu en anglais, je ne sais pas si ça va être sous-titré, mais ça aura lieu en anglais, vous avez sur le site d'Amnesty et sur la page s'appelle « Cybersurveillance, l'urgence de réguler un secteur hors contrôle ». Donc elle est sur le site d'Amnesty, vous allez dans l'actualité et vous la trouvez très facilement, cette page, c'est une des dernières qui a été mise en ligne, et vous avez la possibilité de vous connecter via Facebook, alors via bien sûr un réseau social, que l'on dénonce par ailleurs pour d'autres exactions, mais là on s'en sert. Amnesty, c'est à la fois bien et mal. Hein. Amnesty, n'importe quoi. Non, je suis un peu déboussolé là, par les soucis techniques.
Déçu par la technique.
Internet, ça peut servir au mieux et au pire selon effectivement ce qu'on y fait dessus. C'était pas du tout Amnesty. Amnesty ne fait que des choses bien, mais c'est pas le cas d'Internet. Et donc, sur Facebook, vous pourrez suivre, si vous vous inscrivez, ce que moi je l'ai fait aujourd'hui, si vous vous inscrivez sur cette page de Facebook, vous pourrez suivre toute ou partie des débats de cette journée. Donc, c'est le 28 octobre. Alors, ça nous paraît important, effectivement, de nous mobiliser par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, ce genre d'exaction et de piratage de la vie personnelle, ça peut être effectivement pour tout pays autoritaire des outils effectivement qui sont extrêmement dangereux au niveau de nos droits fondamentaux, pour ne pas dire pire, et que de toute façon, encore une fois, la cybersurveillance et la remise en cause des droits fondamentaux qui en découlent, on sait où ça commence et on ne sait jamais où ça finit. Donc tous les régimes autoritaires, la Chine est bien placée pour, et ce qu'on vous raconte sur la Chine, on est bien placé pour le savoir, la Chine a déjà ouvert grand la porte pour espionner effectivement la société civile chinoise et faire de la répression politique à grande échelle.
Et la problématique, c'est la vente de ces moyens, c'est ça, c'est ce que tu disais au c'est début, ça. C'est que déjà les boîtes qu'il a créées ne sont pas surveillées et qu'après, les États, là maintenant le moratoire, c'est la moindre des choses pour effectivement... faire que ça se calme un peu et qu'on puisse un tout petit peu plus maîtriser ces techniques. Mais c'est bien soucieux quand même, moi, je trouve, parce que ça peut aller loin. Et quand on voit la situation géopolitique, voire économique, voilà. Il faut absolument insister pour ça.
Tout à fait. Donc voilà pourquoi effectivement on se mobilise là par rapport à cette, en profitant de l'actualité au niveau des Nations Unies, c'est important parce qu'encore une fois, ça pourrait déboucher sur une réglementation décidée par l'ONU qui s'imposerait à tous les États, quels qu'ils soient. Donc on pourrait avancer pour protéger la vie personnelle et le droit à la vie privée. Alors je vais simplement vous terminer cette petite intervention pour vous relire un passage qui est dans cet article que vous trouvez sur le site par rapport à cette cybercriminalité. La France, voilà ce qui est dit, la France a un rôle important à jouer pour que les pratiques de surveillance numérique soient conformes aux exigences du droit international. Nous attendons qu'elle soutienne cet appel qui résonne tout particulièrement en France. Car sur les 100 000 personnes à l'international qui soutiennent notre demande de moratoire, 70 000 sont françaises. Là, ça concerne la pétition qui est toujours en ligne, que vous pouvez toujours signer. Ça concerne la pétition pour réclamer ce moratoire auprès de l'ONU. Lors de notre déplacement à l'ONU, nous remettrons notre pétition à l'ensemble des représentants des États membres des Nations Unies. Voilà. Donc, encore une fois, restez à l'écoute de nos émissions pour en apprendre plus hein, par rapport à ce qui aura été dit pendant ces 4 jours de débat à l'ONU, les 4 jours qui viennent. Et surtout, n'hésitez pas à signer la pétition et éventuellement à vous inscrire sur ce groupe Facebook pour suivre les débats qui vont avoir lieu à l'ONU.
On refera un point dès qu'on pourra avoir des infos. Alors, j'ai la réponse. Bon, j'ai un peu triché. La chancelière a été aussi...
Angela Merkel, ça me revient en même
voilà,
temps.
Même, il n'a pas triché, il n'a pas regardé. Il est trop bon, Didier.
Ça m'est revenu en même temps. Bon, eh bien, sans transition, comme on dit, donc je crois que c'est Edith qui voulait vous parler. Alors, je ne sais plus, parce que maintenant, on est un peu perturbé.
Un petit point actualité aussi, c'est la COP27.
Oui, c'est ça.
Alors, la COP27, ceux qui suivent... Vous savez que les voilà tout ce qui est aussi bon puisque le 10 novembre on va parler de la justice climatique donc tout ce qui est changement climatique c'est aussi très important et il y aura des influences sur les droits humains et il y en a déjà. Bon alors la COP27 c'est l'Égypte qui va l'accueillir à Sharm el Cheikh. Donc ça a lieu du 6 au 18 novembre. Alors, Amici fait un petit point pour, avant que tous les projecteurs soient braqués sur l'Égypte, rappelons que ce pays connaît une crise sans précédent des droits humains. Oui, ça, effectivement, le président Sissi, ce n'est pas le meilleur non plus, on va dire ça. Donc, où est-ce que va en être l'Égypte? Comment ça va se passer pendant cette réunion? Alors, les autorités égyptiennes dissimulent la répression et empêchent toute forme d'opposition. Alors, la COP27, c'est un moment crucial pour traiter de l'urgence climatique, mais aussi une occasion, dit Amnesty, de s'attaquer à la grave crise des droits humains qui sévit dans le pays. Depuis que Sisi est au pouvoir, l'Égypte est au cœur d'une profonde crise des droits humains. Exécutions extrajudiciaires, détentions arbitraires massives, disparitions forcées, répression sévère contre les organisations de la société civile, contre les journalistes et les médias indépendants. D'après nos recherches, 22 journalistes sont actuellement en prison en Égypte et plus de 600 sites de médias ou d'ONG sont bloqués. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des droits humains en Égypte actuellement? C'est sans surprise, les autorités présentent un bilan mensonger de la situation des droits humains. En mars 2021, au Conseil des droits de l'homme, 32 États, dont la France, ont critiqué la situation des droits humains en Égypte. Cette prise de position importante a eu un large écho dans la presse et a fait réagir les autorités égyptiennes. Ça a sans doute contribué à l'élaboration de la Stratégie nationale des droits humains, SNDH, qui a été lancée en Égypte en septembre 2021. Alors, c'est une stratégie présentée comme un document de référence par les autorités pour montrer qu'elles se préoccupent de la question des droits humains en Égypte. Mais après étude, on peut affirmer, Amnesty le dit, que cette stratégie n'est ni plus ou moins qu'un outil de propagande pour dissimuler la répression et empêcher toute forme d'opposition en Égypte. Cette stratégie est un coup de com' des autorités égyptiennes pour redorer leur blason auprès de la communauté internationale et surtout avant la COP27. Comment les autorités égyptiennes comptent-elles redorer leur image avec la COP27? Alors, les autorités utilisent les événements internationaux comme plateforme. Leur discours, c'est de dire « Regardez, on organise des événements internationaux avec une participation de la société civile. » Oui, mais de quelle société civile s'agit-il? Indépendante, pro-gouvernementale? Je vous laisse deviner. Un autre discours est porté par les autorités. Nous autorisons les manifestations. Les autorités ont bien déclaré que les manifestations allaient être autorisées pendant la COP27, mais dans un espace bien délimité. Et en dehors de cet espace court, comment vont se passer les manifestations? C'est un grand point d'interrogation. Et en connaissant les pratiques très violentes des forces de sécurité égyptiennes, il y a de grandes inquiétudes à avoir. Y a-t-il un risque de représailles pour les personnes qui manifesteront en Égypte pendant la COP27? Le risque de représailles est toujours présent. Pendant la COP, les projecteurs seront braqués sur l'Égypte. Donc, les autorités égyptiennes vont essayer de ne pas commettre de violations des droits humains et limiteront leur attaque contre la société civile. Mais, une fois que la COP sera passée, il y a une vraie crainte que les autorités ciblent les activistes et le staff des ONG qui auront émis des discours critiques. Personne ne semble dupe, et pourtant, on continue à dérouler le tapis rouge à Sissi. Emmanuel Macron, notre président, lui a remis la Légion d'honneur en 2020. Voilà où on en est. Donc, effectivement, il y a toujours une diplomatie secrète qui permet peut-être une situation d'amélioration des droits humains, mais on est quand même très interrogatif par rapport à cette manifestation de la COP, et on va suivre ça avec importance et avec attention, car vous retrouverez sur l'article d'Amnesty aussi les histoires de personnes, de journalistes qui sont emprisonnés. Hein. Je vais faire comme Mina. Je ne vous lis pas tout, mais l'essentiel est dit. Oui. Et la suite, vous allez chercher.
Bien sûr, de toute façon, il faut aussi que les gens aillent un peu s'informer, effectivement, par leurs propres moyens. Ça, c'est tout
c'est trop long après, mais c'est quand on lit la situation des gens dans les prisons et comment ça fonctionne. Bon, voilà. Bon, la balle est dans le camp de l'Égypte, on va dire ça, pour la COP27, mais beaucoup d'inquiétudes quand même.
Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, juste un petit complément, c'est que d'abord, effectivement, les sites amnesty.fr est toujours une source d'information tout à fait intéressante, et même mieux que ça. Et que par rapport à cette COP27 en Égypte, vous avez la possibilité, toujours sur le site, effectivement, si vous allez sur la page, vous avez la possibilité d'envoyer des messages par Twitter. Alors, il faut par tweet, donc il faut avoir Twitter, il faut être abonné à Twitter. Enfin, c'est pas très compliqué de l'être, et c'est gratuit. Et donc, d'envoyer des messages, effectivement, auprès de la délégation française officielle qui va participer à la COP27 pour lui rappeler ses obligations, aussi bien en termes de changement climatique qu'en termes de défense des droits humains fondamentaux en Égypte. Donc, n'hésitez pas. Il y a
trois textes de tweets. Allez, redis
tweets.
Ça.
Trois tweets, c'est dur à dire. Trois tweets, effectivement, à envoyer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bien, alors j'ai reçu une réponse par texto de notre ami JC qui m'a indiqué un truc. Alors on va essayer de passer la deuxième
peut-être
pause
qu'on
musicale.
Va avoir notre qu'on musique. Avait, sans ça, vous aurez la avait, musique de l'automate.
Voilà,
c'est pas mal
qu'on,
aussi.
Avait, qu'on avait prévu. Donc on va essayer de vous la passer. Et puis si jamais ça marche pas, ben on vous passe la musique de l'automate.
De toute manière, musique.
Et on se retrouve juste après.
Carnet de santé,
nos poèmes, nos dessins,
nos demandes de congés,
nos premiers chats coquins,
nos recettes de cuisine,
nos relevés bancaires,
nos rencarts, notre planning
et notre compte à découvert.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors, si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
Nos listes de choses à faire,
nos tendres SMS,
nos écrits de colère
et nos carnets d'adresses,
nos cafés préférés,
nos horaires de piscine,
nos ennemis jurés
et le nom de la voisine.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA.
Nos cartes d'adhérents,
nos radios, nos scanners,
les photos de nos parents,
nos bulletins de salaire,
notre poids en chocolat,
nos drogues favorites,
les vidéos du chat
et nos idées politiques.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire, et si... Oh, et puis non. C'est là que se niche ce que l'on pourrait appeler la créativité. Et c'est ça qui est menacé. Lorsque l'on se sent surveillé. Lorsque l'on est surveillé.
Nos mails inachevés,
l'adresse de notre docteur,
notre âge est détaillé,
nos relevés de compteur,
nos préférences sexuelles,
à bien y réfléchir,
sont pas si personnelles
que l'on veut bien le dire.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression.
Nos lectures matinales,
nos clics et nos cauchemars,
les sources de notre journal,
si on se lève tôt ou tard,
nos entretiens d'embauche,
le montant de nos impôts,
notre conception de la gauche
et la taille de notre bureau.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Si toi tu penses que t'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que t'as envie de tout donner à Google et à Facebook, bien tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance.
À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Rien à cacher.
C'était notre musique.
C'était rien à cacher. On a résolu le souci technique. Effectivement, c'était une manipulation
que je
ne connaissais pas. Merci JC pour m'avoir envoyé un petit texto pour résoudre le souci. Mais bon, voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend.
Une bonne nouvelle après
donc
cette
bonne nouvelle
de
musique. Après, c'est Edith qui va vous parler, mais elle vous le dira elle-même quoi elle va vous parler. Et encore,
droit d'expression, moi,
et
aujourd'hui.
On vous rappelle qu'on va terminer sur une info par rapport à notre forum du 10 novembre, donc surtout, ne quittez pas l'écoute. Donc, une bonne nouvelle, ça se passe en Lituanie. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché le 30 juin dernier la loi lituanienne qui permet de refuser le droit d'asile à une personne et de la placer en détention automatique au seul motif qu'elle a franchi illégalement la frontière, n'est pas compatible avec la législation de l'Union européenne. C'est un camouflet pour les autorités lituaniennes qui estimaient possible de déroger au droit européen dans des situations extraordinaires ou lors d'un afflux massif d'étrangers, entre guillemets. La Cour a dénoncé également les placements en détention des migrants et des réfugiés, parfois présentés comme des hébergements temporaires, un maquillage sémantique qui ne trompe personne. Mais enfin, petit commentaire personnel, ce qui se passe en Lituanie, c'est pas très différent, ou ce qui se passait en Lituanie, n'est pas très différent de ce qui se passe encore en France. Voilà, donc Edith,
allez, c'est
à
moi. Alors moi, eh bien, écoutez, j'ai commencé à m'intéresser à un article sur l'Inde, un pays dont on ne parle pas souvent. C'est pareil, il y a un gouvernement assez, on va dire, C'est comment dire, un peu dur au niveau des droits humains hein, et des minorités surtout. Et donc là, ça se passe dans l'état de Jammu et Cachemire. Et dans cet état-là, le gouvernement indien contrôle totalement les informations qui viennent de l'extérieur de la région. Depuis qu'il a adopté des mesures restrictives sur les médias, sur aussi les films, et dernièrement, on peut avoir compté 552 jours de blocage d'Internet, pour vous dire. Et les autorités indiennes continuent à suspendre fréquemment l'accès à Internet dans diverses régions du Cachemire, souvent sans préavis. De plus, en 2022, il y a eu la fermeture soudaine imposée par le gouvernement du club de la presse du Cachemire, qui a porté un coup très dur à un secteur des médias déjà très mal en point. Car depuis 3 ans, la société civile et les médias dans l'état de Jammu et Cachemire sont en butte à la répression exercée par le gouvernement indien, qui est déterminé à étouffer la dissidence en recourant à des lois et politiques draconiennes et aux moyens de pratiques illégales. C'est ce qu'a déclaré Akar Paktel, directeur d'Amnesty International Inde. En harcelant et en intimidant les voix critiques, les autorités ciblent toutes les sources d'informations indépendantes et dignes de foi au Cachemire. La dissidence a été muselée au moyen d'une violente répression qui a semé la peur et créé une incertitude dans la région. Donc, pourquoi je me suis intéressée à l'Inde, c'est que j'ai vu aussi un article sur une journaliste, donc je vais vous donner son nom, Sana Ishran Mathu, qui n'a pas été autorisée à prendre l'avion ce 18 octobre 2022, alors qu'elle avait un visa et un billet valide pour se rendre aux États-Unis et assister à la cérémonie de remise du prestigieux prix Pulitzer pour sa couverture de la pandémie du Covid-19. D'après les médias, aucune raison officielle ne lui a été fournie, alors qu'elle avait dû déjà renoncer à se rendre à l'étranger en juillet. Eh bien oui, parce que dans les mesures du gouvernement indien, c'est aussi les interdictions arbitraires de voyager qui deviennent la principale tactique des autorités pour faire taire les voix indépendantes et critiques dans le pays. Ces mesures arbitraires ne sont étayées par aucune décision de justice, aucun mandat, ni même aucune explication écrite. Il est donc difficile pour les militants et militantes, les journalistes, de les contester devant les tribunaux. Les interdictions de voyager sont régulièrement utilisées comme moyen privilégié d'opérer une large répression de la dissidence. Il s'agit d'une violation flagrante des droits humains qui doit céder immédiatement, a déclaré Akar Patel, le directeur, je viens de vous le dire, d'Amnesty Inde. Il y a aussi l'utilisation arbitraire de la loi, des lois contre le terrorisme qui permet de... interpeller les journalistes, de les remettre en liberté sous caution et après de nouveau les interpeller sous d'autres lois. Enfin, voilà ce qui se passe dans cet état de l'Inde et c'est la liberté d'expression qui est vraiment en danger et vraiment muselée. Alors malheureusement, en cherchant un peu, j'ai trouvé la Turquie. Alors on va aller en Turquie. Et en Turquie, il y a l'adoption par le Parlement turc de la loi sur la désinformation qui resserre l'étau du gouvernement sur les plateformes des réseaux sociaux et sur les sites d'information, tout en criminalisant le partage d'informations jugées fausses. Ah oui, ça c'est le grand mot, c'est les informations jugées fausses. Mais c'est jugé fausse par un seul côté. Donc le chercheur Güney Yitzli, chercheur sur la région Amnesty, a déclaré: aujourd'hui, c'est une journée noire pour la liberté d'expression en ligne et la liberté de la presse en Turquie. Dans le sillage du contrôle renforcé qu'exerce le gouvernement sur les médias ces dernières années, ces nouvelles mesures lui permettent de durcir la censure et de faire taire les voix critiques en amont des prochaines élections en Turquie et au-delà, sous prétexte de lutter contre la désinformation. Alors, il y a en plus dans cette loi des sanctions. Toute personne qui propage publiquement de fausses informations concernant la sécurité intérieure et extérieure, l'ordre public, la santé publique du pays, dans le seul but de susciter l'inquiétude, la peur ou la panique au sein de la population, d'une manière susceptible de nuire à la paix sociale, sera punie d'une peine allant d'un an à 3 ans de prison. Et si cette infraction est commise par une personne dissimulant sa véritable identité ou dans le cadre d'activités d'une organisation, la peine sera augmentée de moitié. Voilà la dernière loi de la Turquie. Alors, le 12 octobre, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a extorqué, oui, merci. Les autorités turques à ne pas promulguer cette loi à la lumière de l'avis urgent de la Commission de Venise rendu en octobre 22. Mais elle va-t-il le faire ? Alors, dernier pays, Didier, allez, encore un peu.
Oui, vas-y.
Bon, bah, c'est l'Ouganda.
Où est-ce que tu nous emmènes ?
L'Ouganda, ben voilà. Une loi draconienne vise à supprimer la liberté d'expression en ligne. Ce projet de loi, alors là, on a encore un projet, on a encore une petite espérance, promulgué par le président ougandais Yoweri Museveni le 13 octobre dernier, restreint fortement la liberté d'expression en ligne et sera utilisé contre les détracteurs, notamment les opposants politiques. Amnesty lui demande aussi d'y renoncer sans attendre. Donc, pareil, on va dire, on retrouve les mêmes choses. Sous prétexte que d'interdire les informations non sollicitées, fausses, malveillantes, haineuses et injustifiées, ce texte de loi menace le droit à la liberté d'expression en ligne, qui inclut le droit de recevoir et de communiquer des informations. Il est conçu pour cibler délibérément les détracteurs du gouvernement et servira à faire taire la dissidence et à empêcher la population de s'exprimer. Alors là aussi, il y aura des amendes et même des peines d'emprisonnement jusqu'à 7 ans. La loi définit les discours de haine en thèmes tellement vagues, disposant entre autres qu'il est interdit d'écrire, d'envoyer ou de partager par le biais d'un ordinateur toute information susceptible de petit a, ridiculiser, déshonorer ou avilir une autre personne, un groupe de personnes, une tribu, une ethnie, une religion ou un genre. Petit b, créer des divisions entre une personne, une tribu, une ethnie, une religion, un genre. Et petit c, promouvoir l'hostilité à l'égard d'une personne, d'un groupe de personnes. Voilà, vous voyez un petit peu le niveau de la loi et dans ce que l'on peut faire rentrer dedans.
C'est la porte ouverte à beaucoup d'interprétations.
Absolument. Et même, il y a une loi qui englobe des dispositions vagues sur le partage d'informations non sollicitées. Nul ne doit envoyer ou partager avec une autre personne des informations non sollicitées par le biais d'un ordinateur. Moi, j'aimerais bien que la publicité, elle ne me sollicite pas. On va dire ça aussi à ce moment-là.
Tout à fait.
Bon, donc voilà, Ouganda, Turquie, Inde, la liberté d'expression directement ou en ligne est vraiment, vraiment dans de mauvais jours, on va dire.
Il faut être vigilant et il faut continuer à agir. Donc, c'est pour ça aussi que Amnesty sera à l'ONU dans les 3 jours qui viennent, effectivement, pour participer à ces discussions qui devraient déboucher, effectivement, encore une fois, là, on parle de cybersurveillance, qui devrait déboucher sur une réglementation contraignante des Nations Unies. Voilà. Du moins, on l'espère. Donc, on va s'approcher du terme de l'émission.
Voilà. Et tu vas nous parler de notre fameuse journée du 10 novembre.
Voilà, on vous l'a dit au début, mais là, on va la détailler un peu plus. Donc, le jeudi 10 novembre, ça se passe de 9h à 17h30. Et c'est dans la salle de conférence du lycée Aristide Briand. Alors, c'est dans un lycée, mais la salle de conférence sera
et puis, ils sont accueillants au lycée.
Sera accessible, l'entrée est libre et gratuite.
Voilà, on n'a pas besoin d'être étudiant, on n'a pas besoin d'avoir son cartable.
Tout à fait, l'entrée est libre et gratuite et vous pourrez rentrer sans problème. Et donc, c'est une journée de conférence organisée par Amnesty International, donc les groupes de Haute-Normandie et le groupe d'Evreux, dont d'Evreux fait partie, bien évidemment. Et donc, c'est Thierry Houle qui est responsable régional adjoint qui a largement travaillé sur les différents intervenants qui vont alimenter cette journée. Et c'est sûr que je vais vous dire un petit mot. Donc, il y aura, je vais vous dire les thèmes des différentes conférences et qui va les animer. Il y aura Pierre André, qui est chargé de recherche FNRS à l'Université de Louvain et à la chaire ouverte d'éthique économique, et qui va parler de « Peut-on penser la justice climatique à partir des droits humains ?» Il y aura Adrien Estève, qui est chercheur au Centre de Recherche Internationale Série de Sciences Po, qui va intervenir sur penser les liens entre changement climatique et sécurité humaine. Il y aura quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Sabine Gagné, qui est une permanente à Amnesty France et qui est responsable du programme Justice de genre et non-discrimination, qui va parler de nos droits brûlent, l'impact de la crise climatique sur les droits humains. Il y aura Aini Ktapa, c'est dur à dire, qui est présidente de l'association des 150 citoyennes, conventions citoyennes pour le climat. Je pense que vous avez tous entendu parler de la convention citoyenne et qui va parler de justice climatique et justice sociale. Il y aura Chloé Lallier, co-référente du groupe Inégalité climatique dans l'association Notre Affaire à tous, une association qui est assez connue,
avec
Amnesty a participé aussi beaucoup. Droits humains et climat, une question d'inégalité, c'est le thème de son intervention. Et enfin, Michel Tabal, chargé de mission sur les questions internationales à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, la coopération internationale de lutte contre le changement climatique, c'est le thème de son intervention. Voilà donc effectivement les différents intervenants, il y en a 6 toute la journée, 3 le matin et 3 l'après-midi. Bon, ils ont envoyé une petite explication, on n'a pas le temps de vous la lire effectivement par rapport à ce qu'ils vont dire, mais n'hésitez pas, et on va commencer à distribuer des affiches là cette semaine et à passer pas mal d'informations au niveau des organismes avec qui on travaille, de la presse, enfin, etc. etc. Donc tenez-vous au courant. Il y a Edith qui me passe un papier, qui me montre. Ah oui, j'allais oublier de les citer, c'est des amis, donc ce serait malvenu. Et il y aura la participation du CTCE Alternativa, collectif pour une transition citoyenne de l'heure, et du C3E, Construisons ensemble une écologie engagée, qui vont nous aider dans l'organisation de cette journée de conférence, toute la journée au lycée Aristide Briand. Donc encore une fois, l'entrée est libre et gratuite, et il y aura aussi un stand d'information tenu par Amnesty sur ce qu'on fait et sur ces différentes thématiques. Voilà. Donc encore une fois, on compte sur vous pour venir participer à cette journée.
Alors, moi,
j'ai
juste une question à poser, parce que là, je vais pouvoir y être. Mais quand on travaille, est-ce qu'on a un compte-rendu après?
Là, tu me poses une colle pour ne rien dire.
Mais oui, parce que je l'ai posé à Thierry, puis il ne m'a pas répondu tout de suite, il ne savait pas encore.
Non, je pense que malheureusement, au niveau du lycée, il n'y a pas trop de possibilités pour enregistrer. D'après ce que j'ai compris, ce n'était pas trop possible. Ça aurait été possible dans d'autres salles, mais qui n'étaient pas...
On vous en parlera, nous, alors.
Soit indisponible, soit inabordable au niveau du tarif. Donc, effectivement, non, on va essayer de faire des comptes rendus.
De prendre des notes, mais je crois que
l'enregistrement ne sera malheureusement pas possible. Voilà. Mais encore une fois, si vous êtes libre le samedi, on vous rappelle, le samedi 10 novembre, toute la journée, dans la salle de conférence du lycée Aristide Briand à Évreux, ce quatrième forum organisé par la région Haute-Normandie d'Amnesty International, ça s'appelle « Changement climatique et droits humains ». Et on va rendre l'antenne, effectivement, parce que notre émission ça touche à sa fin, en vous rappelant que nous, au niveau de la radio, pour notre prochaine émission sur l'actualité amnistienne des droits humains, c'est le mardi 15 novembre, 19h, sur l'antenne de Principe Actif.
Eh bien, au revoir.
À très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.